OK, on va commencer notre quatrième leçon dans notre série sur la Providence. Ce soir, nous allons voir la Providence et l'œuvre et son œuvre dans notre conversion. Alors, ce qu'on va regarder, c'est la manière dont Dieu travaille dans notre conversion, comment Dieu orchestre les occasions, les moyens et les instruments. On va voir que Dieu a une variété, je dirais pas infinie, mais il y en a beaucoup. Puis c'est en relisant le livre, j'ai trouvé pas faire autrement que de venir en admiration devant Dieu, devant certains moyens qu'il a pris pour sauver certaines personnes. Alors, dans le premier sermon, on avait étudié que le décret de Dieu dans l'éternité, c'était son plan, et que la providence n'était que l'exécution ou le déroulement de son plan dans l'espace et dans le temps. Nous avions observé que Dieu préserve sa création, qu'il coopère avec elle et qu'il la gouverne dans un but précis. Dans la deuxième sermon, on avait examiné comment Dieu supervise et intervient avec une sagesse infinie dans la vie de ses élus, à la fois collectivement et individuellement. Cette providence-là a plusieurs caractéristiques. Elle est universelle, efficace, bénéfique, encourageante et révélatrice du caractère de Dieu. Le Seigneur est le chef d'orchestre pour diriger le merveilleux concert des circonstances de nos vies. Nous devons nous souvenir et consigner par écrit les miséricordes de Dieu pour plaider notre délivrance lors de nos détresses. Alors, le but principal de consigner par écrit, c'est vraiment qu'on va rencontrer des difficultés dans nos vies, et plus on va se souvenir de ces choses-là, plus ça va nous aider. Dans le troisième sermon, on avait regardé les providences de Dieu dans nos vies, qui avaient commencé dès le sein maternel. On avait regardé aussi que le Seigneur avait pourvu à des circonstances très particulières lors de notre naissance et de notre éducation. Et enfin, comment Dieu nous a guidés dans le choix de nos emplois et professions. Dans ce quatrième sermon, la providence de Dieu, à notre égard, brille de ses feux les plus éclatants et les plus glorieux, parce qu'absolument rien sur cette terre ne peut égaler la sagesse et la bonté du Seigneur que la manière dont il a orchestré les occasions, les moyens et les instruments de notre conversion et notre salut. Comment on comprendrait tout ce qu'on a vu dans les leçons précédentes si on compare ça à la manière dont Dieu a orchestré les providences pour nous emmener au salut? Ça se compare pas, là. C'est bien beau. Bien que nous puissions admirer l'infinie et admirable habileté de Dieu quant à la manière dont il nous a tissés dès le sein de notre mère, quant à la tendresse dont il nous a témoigné dans les circonstances de notre naissance, de notre éducation et des innombrables miséricordes qu'il nous a témoignées tout au long de notre vie, s'il ne nous aurait pas accordé la conversion et la nouvelle naissance, tout cela nous paraîtrait bien peu significatif. Notre conversion est la providence la plus généreuse et la plus insondable que Dieu peut accorder à un être humain. C'est très certainement et de très loin, infiniment loin en fait, la miséricorde envers Dieu pour laquelle nous lui sommes le plus redevables, si nos cœurs ne sont pas profondément émus et reconnaissants envers le Seigneur pour cette providence, c'est que nous sommes bien inconscients et bien ingrats. Alors, le premier point qu'on va regarder, en fait, il y en a juste un, dans le fond, c'est qu'on va regarder la diversité que le Seigneur utilise pour amener des personnes au salut. Et je suis certain que l'auteur n'a pas fait le tour. Il y en a beaucoup, là, et on est très surpris à un moment donné quand on les passe en revue, mais je suis convaincu qu'il n'a pas fait le tour. Alors, lorsqu'on examine les moyens utilisés par le Seigneur pour amener les âmes de ses élus à la conversion, il est inévitable que nos esprits s'émerveillent et se courbent devant la grandeur, la bonté et la miséricorde de notre grand et glorieux Dieu. En fait, dans Éphésiens 3, versets 8 à 11, l'apôtre dit que c'est une sagesse infiniment variée. Donc, variée, on sait ce que ça veut dire, mais infiniment, ça c'est vraiment très profond. Alors là, Éphésiens 3, versets 8 à 11, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, les Écritures elles-mêmes utilisent infiniment variées. Dans Romains 11, 33, on voit que les voies de Dieu sont à la fois profondes, insondables et incompréhensibles. Pas incompréhensibles dans le sens qu'on ne peut pas rien comprendre de ça, mais qu'on ne peut pas les comprendre exhaustivement. Ça dit, j'aime beaucoup ce verset-là, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Je me souviens d'avoir déjà fait une étude de ce passage-là. Et les jugements, c'est vraiment le mot décret, quand tu vas dans l'original, que les décrets de Dieu sont insondables. Alors, la manière dont les choses arrivent dans nos conversions, c'est des fois c'est spectaculaire, des fois c'est extraordinaire. Incompréhensible. Alors, certains des élus de Dieu se souviennent avec une très grande précision des circonstances de leur conversion. D'autres qui ont été élevés par des parents chrétiens pieux ne peuvent pas dire avec précision le moment de leur conversion, bien que celle-ci soit bien réelle et authentique. Alors, j'ai rencontré ces deux genres de personnes-là dans ma vie chrétienne. Il y en a qui sont très précis, peuvent dire, le 10 janvier 1979, à 8h30, j'étais à tel endroit, il arrivait telle affaire, et ça l'a ouvert. D'autres vont dire, ah ben moi, j'ai toujours été élevé dans une famille chrétienne, et j'ai toujours été à l'église, et j'ai pas senti quelque chose de précis à aucun moment, mais je sais que je suis sauvé, mais ils savent pas nécessairement où, quand et comment. Et les deux sont vrais, là. Pas parce que quelqu'un ne se souvient pas nécessairement de l'endroit précisément qui n'est pas sauvé. Alors, nous savons tous également que le Seigneur a accordé sa grâce du salut à certains de ses élus, alors que ceux-ci étaient très près de la mort. Ça, c'est vraiment extraordinaire de penser à ça. Oui. Quelqu'un, le voleur sur la croix, il était à une minute de rentrer dans son éternité, puis le Seigneur le sauve là. Oui. Comme les Anglais disent « deathbed salvation ». Luc 23, versets 39 à 43, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quand il a traversé, lui, là, il a dû réaliser que c'était une grâce vraiment de dernière minute. Alors, on va prendre quelques minutes pour apprécier la riche variété des moyens utilisés par le Seigneur pour amener ses élus à la conversion. Alors, bien entendu, le Seigneur se sert souvent de rencontres de personnes. Alors, on a l'exemple du ministre éthiopien qui a rencontré l'évangéliste Philippe. Dans Actes 8, versets 26 à 30, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et alors, on sait le reste de l'histoire que, bon, en fin de compte, il lui a expliqué que dans Ésaïe, ça parlait de Christ et en fin de compte, il a fini par être sauvé. Il a voulu être baptisé presque immédiatement après avoir entendu ça. On a aussi l'exemple de la rencontre du Syrien Naaman avec le prophète Élisée. On sait que la petite fille, il y avait un enfant qui avait été, lors d'une guerre, qui avait été emmené en Syrie et s'était ramassé servante du général Naaman. Et Naaman avait la lèpre. Et alors, c'était un général qui était vraiment très courageux, qui avait été très utile à son maître, au roi de Syrie. Et un peu dans 2 Rois 5, versets 1 à 4, on voit que la petite fille, ayant été au bon endroit au bon moment, ça a fait en sorte qu'il est allé. Alors, ça dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, et on sait qu'est-ce qui est arrivé. » Il est allé, il ne voulait pas tout de suite se saucer cette fois dans l'eau comme le prophète le demandait. Il a fini par céder, il l'a fait, et il était non seulement guéri de sa lèpre, mais ça a tout l'air qu'il a été sauvé aussi. Jean 4, versets 4 à 6, versets 28 à 30 et versets 39 à 41. On a vraiment l'histoire de Jésus avec la Samaritaine. Il fallait que Jésus soit à un endroit très précis, à un moment très précis, pour rencontrer cette femme-là. Et on sait qu'il y a un effet là-dedans, où je l'ai appelé l'effet domino. On va lire un peu le texte, mais on va voir l'effet domino. Dans le verset 4, ça se dit « comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». Alors, dans le décret de Dieu, il fallait que Jésus passe là et qu'il rencontre cette femme-là. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Dans le verset 28, là on en passe un petit bout, mais dans le verset 28, on voit que ça a produit un effet chez la femme qui n'a pas resté assis là-dessus, puis je m'en retourne chez nous. Est allé vers les autres pour dire le bon message. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alors ça dit dans le verset 39, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Dans le verset 40, « Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. » Voyez-vous, Jésus rencontre une personne dans sa providence, elle va vers les autres, certains sont sauvés, et après ça, un grand nombre. Une rencontre, toutes les choses qui arrivent. Intéressant. Acte 16, verset 26 à 31, le geôlier, avec l'apôtre Paul. On sait que les geôliers à l'époque des Romains, tu gardais des prisonniers, tu étais en charge de la prison. Si tu perdais un prisonnier, tu étais... On ne voit pas avec la poque, comme on dit dans ce temps-là. Alors, pas pour rien, quand il a vu Paul, que les portes avaient été ébranlées, il voulait se suicider, parce qu'il était sûr que pour un geôlier, c'est mieux, je pense, c'était mieux pour lui qu'il se suicide, qu'il laisse les autorités, parce que souvent, il l'aurait martyrisé, etc. Alors, verset 26, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Alors on voit que, encore là, les circonstances, Dieu avait permis que Paul allait dans une prison. Bien sûr, c'était l'ennemi qui voulait l'empêcher d'agir, mais Dieu se sert des plans de l'ennemi pour sauver une personne qui était un élu, qui était un geôlier. Spécial aussi. Philémon, chapitre 1, verset 10 à 16, on a l'histoire de l'esclave d'Onésime. Alors, à l'époque, quand quelqu'un était propriétaire d'un esclave, il était vraiment son maître en toute chose. Onésime se pousse, il sauve. Et Paul, dans la providence de Dieu, croise son chemin, lui annonce l'Évangile, et là, demande à Onésime de retourner voir son maître. C'est assez spécial aussi. Alors, lui, il se sauve, Paul le rencontre, le retourne chez son maître. mais il fallait qu'il rencontre Paul, parce que probablement que dans les décrets de Dieu, c'était le témoignage que Paul lui donnerait qui l'amènerait à Dieu. Il dit, « Je te prie pour mon enfant, c'est Paul qui écrit à Philémon, que j'ai engendré étant dans les chaînes au Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. » Alors, Paul, il avait comme compris le principe. Et il dit non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi, plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alors, on a vu quelques exemples de rencontres providentielles, qu'on pourrait dire. Maintenant, on va regarder des fois des remarques verbales. Je les avais déjà racontées, mais on va la redire encore. C'était Arthur Pink qui était impliqué dans la théosophie jusqu'aux oreilles, dans le Nouvel Âge, et il était pour devenir un grand écrivain pour cette association-là. Il était allé à une réunion un soir, puis quand il est rentré, son père lui a dit, Proverbe 16, 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté dans sa chambre, pas capable de dormir de la nuit. Le verset, il roulait continuellement dans la tête jusqu'au point où est-ce que le verset a fait l'œuvre de... Et le lendemain, il est descendu à son père, il a dit, « J'abandonne la théosophie, je suis le Christ. » Quelque part, une remarque, il a dit juste un verset, ça a été dingue. Intéressant aussi, des remarques de femmes sur leur état d'ivrogne avant leur conversion. Alors, quand on lit la vie du théologien puritain William Perkins, qui était vraiment un théologien de toute première ordre, à son époque, il a eu une influence énorme. Et aussi le pasteur John Bunyan qui a écrit « Le voyage du pèlerin ». Ces deux hommes-là ont été sauvés par des femmes qui étaient dans la rue, qu'eux autres étaient des soulons à l'époque. Fait que là, Perkins, je me souviens que Il se promenait dans la rue, puis les femmes ont été chercher deux enfants qui étaient désobéissants. Puis ils ont dit, « Coudonc, tu veux-tu devenir comme le soulon Perkins? » Puis Perkins a entendu ça. Ça a été le moyen que Dieu s'est servi. Puis la même chose pour John Bunyan. John Bunyan est un soulon lui aussi. Puis des femmes avaient fait des remarques aussi. « Veux-tu devenir comme le soulon John Bunyan? » Et le Seigneur s'est servi de ça pour l'amener au salut. Assez spécial. Les moqueries, maintenant. Ça aussi, c'est un moyen assez particulier. Et ça, on pourrait en nommer plusieurs, mais je sais que le grand évangéliste George Whitefield, qui a vécu entre 1714 et 1770, il a été puissamment utilisé par le Seigneur lors de grands rassemblements en Angleterre, un petit peu partout en Europe, un petit peu partout aux États-Unis. Il voyageait continuellement, et à cette époque-là, c'était en bateau. Et il y avait toujours des personnes qui suivaient, des jeunes probablement, qui voulaient se moquer de lui. Certains baissaient leurs pantalons pendant qu'ils prêchaient. Ils faisaient toutes sortes de niaiseries pour détourner l'attention des gens face au message de l'Évangile. Et une bonne fois, il y avait un jeune comme ça qui tournait autour de lui, qui dansait en niaisant. Puis il répétait les paroles de George Whitefield en voulant se moquer. Et il a entendu sa propre voix et le propre verset qui est en train de... Il a vraiment entendu que ses oreilles spirituelles, le verset qui est en train de se moquer, et ça a été là, sauvé par une moquerie. Sa propre moquerie. C'est spécial, mais j'aime beaucoup ces genres de choses-là. Des moyens inusités. Dans son livre « The Mystery of Providence » à la page 63, le puritain John Flavel raconte comment une personne du pays de Galles au Royaume-Uni fut convertie. Alors qu'il était un moqueur et un ennemi de l'Évangile de Christ, il allait au marché public pour s'acheter quelque chose à manger. Le marchand qui lui servit son achat l'enveloppa avec une feuille qu'il avait déchirée du catéchisme du puritain William Perkins. Ça voulait dire qu'il devait pas avoir un grand respect pour le catéchisme parce qu'il le prenait comme papier pour envelopper les choses. Arrivé chez lui, le papier est encore lisible, il a lu ce qui était écrit sur le papier du catéchisme et il était converti par ce moyen. Assez spécial. L'autre paragraphe que je vais vous nommer, celle-là c'est personnel, je l'ai vécu à Québec. Elle s'appelle Diane Gingras-Hudon. Elle vit encore à Québec. Elle se promène continuellement dans le centre-ville, surtout dans la basse ville. Elle s'est donné un ministère extrêmement actif de distribution de traités évangéliques dans les rues de Québec. C'est soit des petits traités évangéliques ou soit des petites cartes qui ont été plastifiées. Elle distribue ça là, comme des bonbons un peu partout. Elle en donne épouvantablement. Alors, elle nous a raconté, parce qu'à un moment donné, on était sur le coin de la rue, puis elle s'est arrêtée, puis elle a commencé à discuter avec nous autres, puis elle nous a dit qu'un jour, elle avait reçu un téléphone par une personne qui était dans un état suicidaire et qui avait décidé d'en finir et qui s'était rendu dans un dépotoir pour finir sa vie. Alors, quand il est arrivé sur place, il y a eu comme un éclair de génie. Il a dit au Seigneur, si tu existes, là, il est vraiment temps que tu te manifestes. Alors, le Seigneur, il a baissé les yeux, il a vu un traité qui était dans le dépotoir, il l'a lu, il était sauvé. Assez inusité, merci. Moi, quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Alors, il l'a lu et il était sauvé. Maintenant, des lectures. Un autre moyen, on est rendu au cinquième moyen, des lectures. Personnellement, j'ai été sauvé par la lecture du Nouveau Testament qui m'avait été donnée par un catholique qui s'est aujourd'hui égaré dans le Nouvel Âge. C'est spécial, hein? Un catholique me donne un Nouveau Testament. Moi, je deviens chrétien, puis lui, il s'égare dans le Nouvel Âge. Ce Nouveau Testament lui avait été remis par un chrétien très zélé qui était bibliothécaire à la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic. Cet homme est devenu aujourd'hui un ami personnel. Alors, quand on voit comment Dieu agit parfois, c'est spécial. Lui, un chrétien, donne ça à lui, un catholique. Un catholique me donne ça à moi. Moi, je suis sauvé. Lui, ça va dans le monde. C'est Plusieurs personnes aussi ont témoigné avoir été sauvées par la lecture de livres écrits par des chrétiens. Par exemple, durant la Réforme, plusieurs affirment avoir été sauvés par la lecture des œuvres du réformateur Martin Luther. Alors, les erreurs ou les oublis des prédicateurs, ça c'est assez spécial aussi. Augustin d'Hippone, qui a vécu au IVe siècle, était en train de prêcher. Et là, il y avait tout un fil d'argumentation dans sa tête pour parler à sa congrégation. Un moment donné, il a perdu le fil. Et là, pour continuer sa prédication, il a décidé de poursuivre en dénonçant l'hérésie du manichéisme qui était alors très répandue à cette époque-là. Son oubli fut utilisé par le Seigneur pour convertir une personne présente nommée Firmus qui avait été séduite par cette hérésie. Il perd le fil, puis il embarque sur le manichéisme, s'il n'y aura pas parlé de manichéisme. Alors le Seigneur, ça sert de ça. John Flavel, dans son livre, raconte aussi qu'il a personnellement connu un pasteur qui s'était trompé de Bible, dans lequel ses notes de sermon étaient, et en avait pris une semblable par mégarde. Il fut inspiré par le Saint-Esprit de prêcher sur un texte pour lequel il n'était pas du tout préparé, qui était 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Imaginez-vous, vous n'êtes pas préparé, vous vous rendez compte, j'ai pas mis une note. Là, l'Esprit te met un texte, et t'es pas préparé du tout. Commencez à prêcher sur un texte pendant une heure alors que t'es pas préparé. Vous asseyerez, vous m'en donnerez des nouvelles. Après le sermon, un auditeur présent lui affirma avoir été profondément touché et s'était converti au Seigneur. Voyez-vous, un oubli, une erreur, le Seigneur peut utiliser n'importe quoi. Maintenant, les traités. C'est assez spécial, les traités ou les tracts. Alors, j'aimerais vous raconter l'extraordinaire histoire de M. Gaynor. Alors, ma première idée, c'était d'aller chercher le petit vidéo sur YouTube, puis de vous la faire écouter. Ça dure à peu près 10 minutes. Mais, vu que c'est en anglais, je me suis dit, je vais aller voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait traduit ça sur Internet. Faites une petite recherche. J'ai trouvé le texte qui est donné dans la vidéo en français. J'ai dit, ah, le voilà le moyen. Alors, je vais vous le lire. L'auteur dit, « Avez-vous déjà été découragé dans l'évangélisation et la distribution de tracts évangéliques? » Lisez cette histoire. Tout a commencé il y a plusieurs années dans une église baptiste à Crystal Palace, dans le sud de Londres. À la fin du culte du dimanche matin, un homme s'est levé à l'arrière, a levé sa main et a dit, « Excusez-moi, pasteur, puis-je partager un court témoignage? » Le pasteur a examiné sa montre et a dit, « Vous avez 3 minutes. » L'homme a commencé son histoire. « Il n'y a pas longtemps que j'habite ici. Auparavant, je vivais à Sydney, en Australie. Il y a quelques mois, je visitais de la famille et j'ai été marcher dans George Street, une rue du quartier des affaires de Sydney. Un étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti de l'embouchure d'une porte et il m'a mis un tract dans la main et m'a dit, « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel? » J'ai été stupéfait par ces mots. Personne ne m'avait jamais dit ça. Je l'ai remercié avec courtoisie, mais pendant tout chemin du retour vers Londres, cette rencontre m'a travaillé l'esprit. J'ai appelé un ami et je remercie Dieu parce qu'il était chrétien et il m'a conduit à Christ. Les baptistes aiment beaucoup les témoignages comme celui-là. Tout le monde a applaudi et accueilli chaleureusement cet homme dans l'assemblée. Le pasteur baptiste a voyagé à Adélaïde en Australie la semaine suivante. Et 10 jours plus tard, pendant un séminaire de 3 jours dans une église baptiste à Adélaïde, une femme est venue à lui pour quelques conseils. Il lui a demandé comment elle avait rencontré Jésus. Elle répondit, « Je vivais à Sydney il y a quelques mois. J'ai été en visite chez des amis à Sydney et faire quelques achats de dernière minute à George Street. Un étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti d'une porte, m'a offert un dépliant et a dit, « Excusez-moi, madame, êtes-vous sauvée? Si vous mouriez ce soir, irez-vous au ciel? » J'ai été perturbé par ces mots. Lorsque je suis arrivé à Adélaïde chez moi, je savais qu'il y avait une église baptiste dans mon quartier. Je suis allé voir le pasteur et il m'a conduit à Christ. Je suis maintenant chrétienne. Le pasteur de Londres est devenu maintenant très perplexe. 2 fois en 2 semaines, il avait entendu les mêmes témoignages. Il a ensuite pris l'avion pour prêcher dans l'église de Mount Pleasant à Perth. Lorsque sa série d'enseignements fut terminée, le responsable des anciens de cette église l'a amené déjeuner et il lui a demandé comment il a été sauvé. « J'ai grandi dans cette église depuis l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais eu de réelle relation avec Jésus. J'avais suivi le mouvement comme tout le monde. En raison de mes capacités d'entrepreneur, j'ai eu une place prépondérante dans l'entreprise. Je suis allé faire un voyage d'affaires à Sydney il y a 3 ans. Un vilain petit homme aux cheveux blancs est sorti de l'embouchure d'une porte dans la George Street et m'a accosté par une question. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé? Si vous mourrez ce soir, iriez-vous au ciel? » J'ai essayé de lui expliquer que j'étais un ancien dans l'église baptiste, mais il ne voulut rien savoir. Tout au long de mon chemin de retour vers Perth, j'étais très irrité. Espérant être rassuré par mon pasteur, je lui racontais mon histoire. Mais ce dernier, contrairement à mon attente, donna raison au vieil homme et m'expliqua que je devais absolument rencontrer Jésus. C'est ainsi qu'il me conduisit à Christ il y a 3 ans et que je puis maintenant dire que je suis sauvé. Le pasteur revint de nouveau à Londres. Et peu de temps après, il vint faire une conférence devant l'Assemblée de Keswick dans le Lake District. Il racontera ses 3 témoignages. À la fin de la conférence, 4 anciens pasteurs s'avancèrent et racontèrent que 25 ans plus tôt, la même expérience leur était arrivée. Ils avaient fait la même rencontre avec le petit homme au même endroit qui leur avait posé la même question. Ils avaient reçu le même tract et avaient été sauvés à la suite de ça. Le pasteur partit la semaine suivante pour les Caraïbes et, au cours d'une conférence, rendit les mêmes témoignages. Au terme de la réunion, 3 missionnaires s'avancèrent et expliquèrent que 20 ans plus tôt, ils avaient été sauvés de la même façon, au même endroit, avec le même homme, la même question, et le même tract. Le pasteur poursuivit son voyage d'évangélisation à Atlanta, en Géorgie, pour une réunion avec 1000 aumôniers de navires. Les responsables de ces aumôniers invitèrent le pasteur à dîner, et le pasteur lui raconta comment il était devenu chrétien. Cet homme lui raconta, « J'étais matelot sur un navire de guerre, et je menais une vie de débauche. Nous faisions alors des manœuvres dans le Pacifique Sud. Nous avions fait escale à Sydney, et tous les soirs, nous faisions la Java. Un soir, complètement saoul, je me trompais de bus et me retrouvais dans la George Street. À ce moment, je crus voir un fantôme. Un homme s'adressa devant moi et me remetta un traité. Il me dit, « La crainte de Dieu me saisit immédiatement. Je fus instantanément dégrisé pour regagner en courant le navire. Là, je suis allé voir l'aumônier qui m'a conduit à Christ. Je suis maintenant le responsable de 1000 aumôniers qui essaient à leur tour de gagner des âmes pour le Seigneur. » 6 mois plus tard, le pasteur se rendit en Inde pour une conférence devant 5000 missionnaires. À la fin de la conférence, le dirigeant invita le pasteur pour un repas. Le pasteur demanda également son hôte comment il avait rencontré Jésus. Le missionnaire hindou lui raconta, « J'ai voyagé à travers le monde comme diplomate. J'ai séjourné en Australie, à Sydney. Un jour, comme j'avais été faire des courses en George Street, un petit monsieur aux cheveux blancs m'accosta et me demanda un tract en me demandant poliment, « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé? Irez-vous au ciel si vous mouriez? » Je remerciais beaucoup cet homme, mais cette question ne me laissa pas en paix. De retour dans ma ville natale, je suis allé voir le prêtre hindou. Celui-ci, ne pouvant m'aider, me conseilla de m'adresser à la mission chrétienne située au bout de la rue. Le jour même, le missionnaire me conduisit à Christ et j'abandonnai l'hindouisme immédiatement. Je suis maintenant moi-même missionnaire et j'ai la responsabilité de tous ces missionnaires qui ont déjà conduit au moins 100 000 personnes à Christ. 8 mois plus tard, le pasteur londonien se rendit à Sydney pour prêcher. Là-bas, il s'enquiert au père du pasteur baptiste de l'existence de cet énigmatique petit monsieur aux cheveux blancs qui distribuait des tracts dans George Street. « Je le connais. Il s'appelle M. Gaynor et il est maintenant assez âgé en âge. Je peux vous le faire rencontrer. » 2 jours plus tard, les pasteurs se rendirent chez lui et un vieillard minuscule et fragile les reçut. Ses mains tremblaient en servant le café. Et le pasteur de Londres lui fit part de tous les témoignages le concernant. Des larmes coulèrent alors des joues du petit homme et il raconta. « J'étais matelot sur un navire de guerre australien, menant une vie déréglée et jouant de mauvais tours à tous mes collègues. Un jour, une crise de maladie me terrassa. Un de mes compagnons, avec qui je n'avais pas été très gentil, m'aida à me relever et me conduisit à Christ. Ma vie changea du tout au tout. J'étais si reconnaissant envers Jésus que je lui promis de rendre témoignage à chaque jour à au moins 10 personnes. À ma retraite, je suis venu prendre place chaque jour dans la George Street où je rencontrais des centaines de personnes. Pendant les 40 années où j'ai fait cette activité, je n'ai pas vu une seule personne se donner à Jésus. Quelle fidélité! Pendant 40 ans, cet homme a travaillé dans la mission que Dieu lui avait confiée sans jamais voir le moindre résultat. À l'aurore de sa vie, Dieu lui a permis d'entrevoir ce qui s'est réellement passé. Et je suis certain que ces quelques témoignages ne sont que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus grand. Une grande récompense attend cet homme au ciel quand il verra le nombre des gens qui ont été sauvés grâce à son obéissance. Pourquoi si peu de chrétiens sont prêts à faire ce que cet homme a fait? Beaucoup trop marchent par la vue, non par la foi. La plupart veulent être tout de suite récompensés par les résultats de leur travail, sinon ils ne travaillent pas. Si nous avons une récompense en bas, l'aurons-nous en haut? Cet homme a eu de la foi de travailler de cette façon pendant 40 ans parce qu'il avait l'assurance qu'il plaisait à Dieu. Hébreux 5, verset 11, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Allons-nous marcher par la vue ou par la foi? Si nous marchons par la vue, ne serons-nous pas agréables à Dieu? Et j'ai mis la source dans le... Si jamais ça vous tente, allez... Et moi, j'avoue que je suis pas capable de l'écouter sans pleurer. Chaque fois que j'écoute ça, ça me touche tellement profondément de voir que, tu sais, des fois, on peut faire quelque chose puis on pense que ça donne pas de résultats. Tu sais, on distribue des tracts. Des années, tu prêches dans la rue, toutes sortes de choses. C'est pas vraiment rien. M'en est un gars d'Ottawa qui m'avait envoyé ça. Et le matin qu'il m'a envoyé ça, j'étais vraiment dans un état que ça me tentait plus d'y aller. J'étais comme, je t'écœure. Et je me suis mis à pleurer ce matin. J'ai pleuré. Parce que je me suis dit, je ne sais pas ce que le Seigneur fait avec ce que je fais. Je ne sais pas. Puis je le saurai peut-être à la fin de ma vie, peut-être que je ne le saurai jamais. Mais il peut se passer des choses. Je me souviens, pas longtemps après, j'ai reçu un courriel d'une femme du Nouveau-Brunswick. Elle dit, je voudrais te dire ça juste pour t'encourager. Elle dit, je connais quelqu'un personnellement aux États-Unis qui est rendu un pasteur aujourd'hui. Qui un jour est allé passer des vacances dans la ville de Québec. C'est pas moi qui avait donné, là, parce que c'était des années avant. Et il dit, il y avait quelqu'un sur le coin d'une rue qui lui a donné un traité. Le gars a pris le traité, il l'a mis dans ses poches, il est retourné aux États-Unis. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a lu le traité, il a été sauvé. Il est devenu pasteur, il a fort probablement contribué à sauver. Rien pour dire hein, qu'on ne sait pas ce que ça a fait avec ce qu'on fait. Alors, moi, c'est juste un grand encouragement. Ce petit vidéo-là de 10 minutes, je vous encourage, si vous comprenez l'anglais, à l'écouter parce que c'est vraiment touchant. C'est vrai que j'essaie de la lire le mieux que je peux, mais l'écouter, je trouve que c'est encore dans la langue anglaise d'Angleterre, ça c'est spécial. Alors, vous pouvez aller sur une vidéo qui dure une dizaine de minutes sur YouTube, alors vous pouvez aller lire ce texte-là. OK. Et après ça, il y a les civilités. Les civilités, c'est quand, par exemple, quelqu'un meurt, on va aller au salon pour lui dire, bon, notre sympathie, etc. Alors, il y a des écritures, il y a des lieux dans les écritures où ça nous montre que c'est les civilités qui ont amené des gens au salut. Par exemple, les Juifs qui connaissaient bien Marie de Béthanie étaient venus la voir pour lui exprimer leur sympathie et ont été convertis par le miracle à la résurrection de Lazare. Quand on regarde ces passages-là, c'est assez particulier. Les gens avaient été voir Marie pour la consoler, pour lui témoigner de la sympathie, et le Seigneur est présent, il fait un miracle, et à cause du miracle, ils sont sauvés. Alors, toutes les subtilités qu'il y a là-dedans, dans Jean 11, 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Bien sûr, aussi, un autre moyen, c'est les persécutions. On sait que dans le livre des Actes, on nous dit qu'à un moment donné, le Seigneur a permis des persécutions chez les chrétiens et que les persécutions comme telles ont fait en sorte que les chrétiens, plutôt que de tout rester à Jérusalem, se sont éparpillés un petit peu partout et le Seigneur s'est servi de ça. Dans Actes 8, versets 1 à 4, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voyez-vous? D'ailleurs, ça sert de choses qui, à nos yeux, semblent bien difficiles, mais il y a eu aussi le comportement exemplaire et héroïque de chrétiens. On l'a ici dans la bibliothèque, le livre qui s'appelle « L'Église du silence torturée pour le Christ ». Le pasteur roumain, Richard Wurmbrand, qui a vécu de 1909 à 2001, il a presque eu 100 ans. Et il était le président de l'organisation « The Voice of the Martyrs », un petit magazine gratuit que vous pouvez vous abonner, vous le recevoir chez vous. Il raconte toutes sortes d'histoires de chrétiens, un petit peu partout à travers le monde, qui sont martyrisés ou torturés ou emprisonnés à cause de leur foi. Alors, il raconte dans son livre qu'il y a des communistes qui étaient des bourreaux, qui étaient leurs bourreaux, qui, en voyant de la manière dont les chrétiens réagissaient, ils ne comprenaient pas, là. Et ça a été quelque chose que le Seigneur a utilisé. Alors, encore là, dans le document, j'ai marqué l'endroit. Et vous pouvez aussi vous abonner à la version française de ce magazine-là, The Voice of the Martyrs en français. J'ai marqué les deux adresses web si jamais ça vous intéresse. Maintenant, le Seigneur a aussi parfois utilisé les mortalités et les maladies. Parfois, le Seigneur permet qu'une mortalité arrive dans une famille, soit le mari, soit la femme, soit les enfants, soit quelqu'un de qui tu es très proche. Et il se sert de ça pour te faire entrer en toi-même et te faire réfléchir sur le sens de la vie. Et des fois, des maladies. Là, je n'ai pas donné d'exemple, mais il y en a beaucoup. Il y a le manque d'éloquence et la médiocrité de la prédication. Ça, c'est assez spécial, parce que Charles Spurgeon était le fils d'un pasteur. À 12 ans, il aurait été capable de discuter d'élection avec les meilleurs pasteurs de Londres. Spécial. Un enfant de 12 ans qui est capable de discuter des doctrines de l'élection, c'est spécial. Mais il avait 12 ans, il connaissait la vérité intellectuellement, mais il n'était pas sauvé. Alors, ça raconte un peu son histoire. Il dit, j'étais dans un pays chrétien, j'avais des parents chrétiens, mais je n'avais pas compris la simplicité de l'Évangile. C'est Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur anglais du 19e siècle, qui s'exprime ainsi. Il raconte comment, pendant des années, il se sentait écrasé par le poids du péché malgré une vie honnête et droite. Il éprouvait la nécessité d'être sauvé par Dieu, mais comment? Dans l'espoir de trouver une réponse à ses besoins spirituels, lancinants, le jeune Charles allait d'une église à l'autre écouter sermon sur sermon en vain. Rien de ce qu'il entendait ne répondait à sa question. Jusqu'à un dimanche matin de janvier 1850, il avait alors 15 ans. En raison d'une forte chute de neige, il ne put se rendre à l'église de son choix et dut se résoudre à pousser la porte d'une modeste chapelle. Une douzaine de personnes s'y trouvaient et attendaient le prédicateur habituel. Quand il fut évident que celui-ci ne viendrait pas, vraisemblablement empêché par la neige, il y eut un long silence. Enfin, un homme très simple, de toute évidence peu instruit, se leva. Il lut un texte de la Bible très court, très simple. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre. » Le prédicateur improvisé avait du mal à lire correctement le texte, mais il sembla au jeune Charles que dans ce texte même, il y avait comme une lueur d'espoir qui s'allumait en lui. Une courte prédication suivit la lecture du texte d'Ésaïe 45-22. « Mes chers amis, c'est vraiment un texte tout simple. Il dit « Regardez ». Ce n'est pas très compliqué de regarder. Cela ne demande pas un grand effort. Ce n'est pas la peine d'avoir fait des études pour apprendre à regarder. N'importe qui le peut, même un enfant. Jésus-Christ dit, « Regardez à moi. Beaucoup d'entre vous regardent à eux-mêmes. C'est inutile, vous ne trouverez jamais le repos en vous-même. » Puis le prédicateur continua, « Regardez à moi. » En voulant dire Jésus-Christ, « Je transpire des grumeaux de sang, regardez à moi. » Je suis pendu au bois de la croix. Regardez à moi, je suis mort, enseveli. Regardez à moi, je suis enseveli. Regardez à moi, je monte au ciel. Regardez à moi, je suis assis à la droite du Père. Ô pauvre pécheur, regarde à moi. À la fin de sa courte prédication, l'homme parcourut du regard le maigre auditoire. Il aperçut un visage nouveau et interpella Charles Spurgeon. Jeune homme, « Tu as l'air malheureux et tu seras toujours malheureux si tu n'obéis pas au texte. Mais si tu le fais maintenant, à cet instant même, tu seras sauvé. Jeune homme, regarde Jésus-Christ. » Par la suite, Charles Spurgeon dira, « À ce moment-là, je vis le chemin du salut. Je fis la chose la plus simple de toutes, croire en Jésus-Christ crucifié, accepter son salut parfait, n'être rien et le laisser être tout. » Ne rien faire, mais se confier en tout ce qu'il fait. Cet heureux jour où je trouvais le Seigneur, jamais je ne l'oublierai. C'est spécial, hein? Ouais. C'est pas un grand prédicateur très éloquent, un homme qui savait pas prêcher. Un verset, et il s'adresse à lui personnellement. Et le plus grand prédicateur du monde voit le jour, spécial. Alors, or moi, il n'y a pas de Dieu juste et sauveur. Il n'y en a point, si ce n'est moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous. Les bouts de la terre, car moi, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Dans Ésaïe 45, 21, verset 21, 22. Autre moyen, on est rendu au 13e, et c'est la musique et un accueil chaleureux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du grand avocat américain Philip Morrow. Il a vécu en 1859 et 1952. C'était un homme brillant qui avait été élevé dans la foi chrétienne, mais il avait abandonné sa foi pour vivre une vie égocentrique, la recherche de la fortune, des plaisirs sensuels et du prestige. Lorsqu'il eut expérimenté toutes ces choses, son âme n'était pourtant pas satisfaite. Il vivait très malheureux et la mort dans l'âme. Il était un homme orgueilleux et avait déclaré que même les théologiens les plus savants n'auraient pas réussi à le convaincre, lui qui était si rationnel. Alors qu'il était à New York à l'hiver de 1903 et qu'il était en ligne pour acheter un billet de théâtre, il entendit un très faible écho de chants chrétiens. Ces chants provenaient d'une minuscule petite église, Gospel Tabernacle, sur la 8e avenue, qui n'est pas très loin de la 44e rue où il se trouvait. Une force irrésistible l'attira vers ce lieu. Rien ne l'avait frappé de ce qu'il avait entendu lors de cette réunion de prière suivie d'une prédication. Cependant, l'accueil qu'on lui réserva fut extraordinaire au point où il fut très vivement touché. Il se sentit attiré par cette petite congrégation et continua de la visiter régulièrement, même si les gens de cette communauté n'étaient pas de sa classe sociale. La fréquentation régulière de cette église fut l'instrument que le Seigneur utilisa pour l'emmener à la conversion. Philip Morrow devint un grand auteur chrétien et défenseur d'une multitude de causes pour le bien du christianisme. Alors, c'est intéressant, s'il y en a qui veulent fouiller sur le site web de Philip Morrow, c'est vraiment un homme spécial que le Seigneur a sauvé alors qu'il attendait. Il a entendu de la musique chrétienne. Il a été bien accueilli dans l'Église et ça a fait en sorte que, normalement, un avocat qui était riche et célèbre n'aurait pas voulu aller dans une petite église comme ça. Et là, le Seigneur s'est servi d'un instrument humble pour sauver un grand orgueilleux. Spécial. Vision. Aussi, le Seigneur s'est servi de vision. Dans Actes 16, versets 5 à 10, la conversion de Lydie, la marchande de pourpre. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voyez-vous la diversité des moyens, c'est incroyable. La 15e, c'est la curiosité. Alors, on a l'exemple de la conversion de Zachée dans Luc 19, versets 1 à 6 et au verset 9. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Alors, imaginez-vous, le chef des publicains. Les publicains étaient haïs pour en faire une maladie par les Juifs. Et lui, il était le chef des publicains. Imaginez-vous. Il cherchait à voir qui était Jésus. Alors, c'était de la curiosité. Il était tout petit. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Dans le verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voyez-vous, c'était pas qu'il cherchait Jésus pour avoir le salut de son âme. Il était juste curieux. Il voulait avoir parce qu'il n'avait entendu parler. Il se monte sur un arbre. Là, Jésus lui dit, ah, OK, tout est un élu de Saint-Cyr. Aujourd'hui, le salut descend dans ta maison. C'est spécial. Et on a vu 15 moyens, mais je suis sûr qu'on n'a pas fait tout le tour. Mais c'est comme je vous avais fait remarquer dimanche, Flavel, il dit dans son livre que les providences qu'on voit, ils sont tellement nombreux, c'est comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alors, on peut en voir certains grains, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais ça donne quand même une idée de l'infinie sagesse de Dieu. Alors, comme application, l'œuvre de la providence dans notre conversion est digne de notre plus grande admiration et de nos plus hautes louanges. Adorons notre grand Dieu, Remercions-le et vivons une vie qui lui apportera honneur et gloire. Deuxième application, notre conversion est sans contredit la plus généreuse et la plus grande œuvre de miséricorde du Seigneur à notre égard. Méditons toutes ces merveilles dans nos cœurs et ceci quotidiennement. Troisièmement, prions l'Éternel de nous ouvrir les yeux pour une plus grande appréciation de cet insondable cadeau. Que le chef d'orchestre des providences de notre conversion soit loué, béni et adoré éternellement.